Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Info 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Question de migrants à la une des informés ce soir avec le naufrage et la mort ce matin de 5 migrants dont une petite fille tombée d'un canot pneumatique au large de Vimereux alors qu'au même moment le Parlement britannique votait l'expulsion des déboutés de l'asile vers le Rwanda. Migration au cœur de la campagne européenne également où le numéro 3 de la liste RN Fabrice Leggeri fait désormais l'objet d'une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité pour l'époque où il dirigeait l'agence Frontex. Au menu également des informés, on évoquera Mathilde Panot, convoquée à son tour, elle, par la police pour apologie du terrorisme. Ça concerne les mots employés par les insoumis après l'attaque du 7 octobre, l'attaque du Hamas. Et puis, les Français s'inquiètent de plus en plus du sort de leurs données personnelles. Les plaintes explosent auprès de la NIL en 2023. Intéressant alors qu'au même moment, le gouvernement annonce qu'il va distiller de l'intelligence artificielle un peu partout dans les services publics et dans la paperasse, on va dire, que la Commission européenne également menace l'application TikTok Lite de sanctions à cause des risques d'addiction qu'elle génère. C'est voilà le programme chargé, passionnant, avec les informés aujourd'hui qui sont Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, Louis Hossalter, journaliste politique au Figaro.
Bonsoir.
Et Yannick Halimi, éditorialiste politique. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Officiellement, donc, c'est pour décourager les migrants que le Parlement britannique a adopté la nuit dernière cette loi inédite en Europe permettant l'expulsion vers le Rwanda de migrants entrés illégalement sur le sol britannique. Loi qualifiée d'historique par le Premier ministre Rishi Sunak. Le Rwanda, qui a déjà touché 580 millions d'euros grâce à cet accord, se félicite lui aussi du vote qui provoque, et on en parlera, un tollé à travers le monde. On va en parler, mais ce texte était à peine adopté qu'on apprenait donc ce naufrage dont je vous parlais. Et on va écouter le maire de Vimereux, sur les bords de la Manche, donc Jean-Luc Dubal, qui pointe, lui, la responsabilité des Anglais.
Pourquoi ils veulent aller en Angleterre, déjà? Pourquoi on les accueille aussi bien en Angleterre? Les Anglais, ils nous payent pour pas qu'on les empêche, mais eux, ils les accueillent. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Moi, je suis désolé. Quand ils peuvent avoir un compte en banque, quand on leur donne du travail sans contrat de travail... Et je le crie fortement, c'est les Anglais responsables de cette situation. Moi je dis, on laisse partir des gens à l'abattoir. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Et il y en a marre, il y en a vraiment marre.
Ça fait 20 ans que ça dure. Hein.
Ça fait 20 ans que ça dure, moi ça fait 4 ans que je suis élu maire. Et pour un maire c'est difficile, c'est très difficile parce que je suis démuni.
Voilà, il y en a marre, dit le maire de Vimereux, qui réclame des moyens policiers et même l'armée. Il s'inquiète notamment pour la période des JO. Ce n'est pas la solution pour contrôler les passeurs. C'est ce que répond Yann Manzi, le cofondateur de l'association Utopia 56, qui vient en aide, lui, aux migrants.
On n'empêchera pas ces gens, et c'est pas parce qu'on dresse des murs ou qu'on surcharge les frontières de policiers qui vont intensifier la répression. Ce qu'on voit, nous, c'est que toutes les personnes passent. Si elles ne sont pas passées lundi, elles passeront mercredi. Ces gens ne lâcheront rien, jamais. La seule répression n'est pas la réponse à apporter tant que nous ne discuterons pas de la possibilité et arrêter de se mentir sur la possibilité de l'Europe d'accueillir aujourd'hui et d'avoir des vraies politiques d'accueil. Je pense que quand nos États reprendront la route des droits humains, on peut imaginer que ces drames cesseront.
Alors, je ne sais pas qui veut prendre la main pour commencer. Il y a cet accord qui est présenté au Royaume-Uni comme la solution, en tout cas, pour dissuader les migrants. Et puis, il y a ces drames. Alors, il y en a eu un deuxième ou un premier plutôt au début de l'année. Et c'est vrai que ça fait des mois que, voilà, à bas bruit dans l'actualité. Ces tentatives de traversée dramatique se poursuivent.
Et puis ça fait des décennies, effectivement, comme le disait le maire qu'on a entendu. Moi, je regardais les archives sur la fermeture de Sangatte. C'était en 2002, le centre pour migrants qui, à l'époque, affluait déjà sur les bords de la Manche et voulait passer de l'autre côté de la Manche. C'était en 2002. On a ensuite la jungle de Calais, démantelée en 2016. À chaque fois, le problème s'est déplacé. Dès qu'on a présenté comme une solution la fermeture, le déplacement, le démantèlement dépend de tel ou tel point de fixation. En fait, le point de fixation s'est répandu et aujourd'hui, il concerne donc des communes plus ou moins grandes sur les bords de la Manche. Moi, je distinguerais deux cas de, au-delà des drames qui effectivement jalonnent l'actualité. Il y a beaucoup de naufrages, plus cette année en tout cas cette année, en ce début d'année, il y a eu énormément de naufrages et de drames humains liés aux tentatives de traversée de migrants de la Manche. Je distinguerais deux types de cas dans les personnes qui sont concernées. Il y a ceux qui veulent absolument aller au Royaume-Uni, pour lesquels c'est une destination, parce que effectivement, comme le rappelait encore le maire, c'est plus facile de trouver du travail là-bas, même en situation irrégulière. C'est plus facile pour certains de retrouver une communauté, une famille. Donc leur destination, c'est celle-là, et ils traversent la France. Ils n'ont pas vocation, ils n'ont aucun désir de rester en France. Ils veulent aller au Royaume-Uni. Et puis il y a ceux qui relèvent de l'Union européenne, dont ne fait plus partie le Royaume-Uni, qui sont ces migrants qui errent d'un pays à un autre une fois qu'ils sont entrés à l'intérieur des frontières de l'Union, à cause du système de Dublin, qui a fait l'objet d'une tentative de réforme, qui fait que quand un migrant entre dans un pays, il doit être enregistré dans le pays d'accueil, mais s'il est déjà allé dans un autre pays que son pays d'accueil, ce pays le renvoie, tente de le renvoyer vers ce pays d'accueil, le pays d'accueil ne veut pas l'enregistrer. On assiste en fait à des pays qui se renvoient.
Problématique qui va être gérée en partie quand même par le pacte asile-immigration.
C'est l'idée. C'est effectivement l'objectif, c'était de réformer ce système de Dublin qui marchait pas du tout. Alors la première idée du pacte asile-immigration, c'était quand même de refouler aux frontières ceux qui ne sont dans tous les cas pas éligibles à l'asile et qui n'ont rien à faire dans l'Union européenne. On va voir si ça fonctionne. Et puis c'était effectivement de soulager les pays d'accueil qui étaient tenus d'enregistrer. Donc ils seront toujours tenus d'enregistrer, mais il y aura un mécanisme de solidarité, soit que les autres pays seront tenus d'accueillir des migrants, soit qu'ils devront donner des compensations financières à ceux qui les prennent en charge.
Sur la responsabilité des Britanniques, quand on entend le maire de Vimereux qui dit il y en a marre, on les envoie à l'abattoir, les Anglais sont responsable, Yannick Halimi.
Alors, c'est vrai que dans l'histoire, dans les années 90, lorsque l'économie britannique fonctionnait terriblement bien, elle manquait de main-d'œuvre, c'est vrai que la Grande-Bretagne a ouvert ses frontières et a attiré le plus d'immigrés possible, quel que soit leur profil, avec des facilités de travail, au noir ou pas d'ailleurs, avec des regroupements familiaux facilités, ça c'est vrai. Effectivement, et il est vrai également que, notamment depuis une vingtaine d'années, l'économie chancelle un petit peu, d'où pourquoi le maire de Vimereux parle de 20 ans, c'est pas pour rien, parce qu'on parle des accords de Dublin, mais entre la France et l'Angleterre, et la Grande-Bretagne, il y a eu ces fameux accords du Touquet. Et là, même si la Grande-Bretagne était entre guillemets plus accueillante au regard du droit du travail, pour aller vite, que beaucoup de pays européens, c'est vrai que la Grande-Bretagne s'est peu à peu fermée en raison des difficultés économiques, en raison aussi d'une poussée identitaire dont on a vu d'ailleurs la concrétisation avec le Brexit. Maintenant, de façon plus actuelle, c'est vrai que cette fermeture des frontières est devenue une obsession pour les conservateurs anglais. Ça avait déjà été fait.
Au cœur des prochaines élections à nouveau, évidemment.
Voilà, qui vont avoir lieu dans 18 mois. C'est Boris Johnson qui, le premier, a tenté de mettre en place de tels accords. Ça a été totalement retoqué par la Cour suprême. Et sans revenir sur le processus législatif qui s'est passé notamment dans la nuit d'hier soir, il se trouve que sur un changement de pied de la Chambre des Lords, bref, l'accord est devenu valide et va pouvoir être expérimenté dans plusieurs mois, tout de même, pas tout de suite.
10 à 12 semaines, enfin, ça peut être assez rapide, c'est soumis alors à plusieurs
conditions. Voilà, 2 à 3 mois.
Il y a le sceau royal qui ne poserait pas de problème. Il y a un aspect juridique qu'on va évoquer peut-être ensemble, parce que tout ça dépend des institutions européennes. Or, Brexit ou pas Brexit, ils sont toujours liés d'une certaine façon, les Britanniques. On voit ça après le Fil Info, 20h11, Stéphane Milhomme.
Et après Béziers, Nice, le maire va instaurer à son tour un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Ce sera à partir du mois prochain et pour toute la période estivale, de 23h à 6h du matin. Christian Estrosi le déclare à France Bleu Azur. Comme le bon sens et la responsabilité des parents font parfois défaut et que la loi n'a pas le courage de s'en saisir, je prends mes responsabilités. Fabrice Légéry dénonce le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche et de ses ONG, deux associations des droits humains Jospin dépose plainte contre le numéro 3 de la liste du Rassemblement National aux européennes. Cet ancien directeur de l'agence européenne Frontex est soupçonné de complicité de crimes contre l'humanité et torture. Il aurait activement facilité des refoulements illégaux de bateaux de réfugiés qui cherchaient à traverser la Méditerranée. Plus de 130 interpellations la nuit dernière à New York après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes pour Gaza. Les arrestations interviennent au moment où plusieurs campus américains s'embrasent de nouveau en raison du conflit de Gaza. Olivier Giroud va finir sa carrière aux États-Unis. L'attaquant, 38 ans, quitte le Milan AC en fin de saison pour rejoindre Los Angeles FC. Il retrouvera son ami et gardien Hugo Lloris. Olivier Giroud, recordman avec 57 buts marqués en 131 sélections.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Compagnie ce soir de Yannick Halimi, de Louis Hossalter, Figaro Louis, Henri Vernet du Parisien. Aujourd'hui en France, on parle de migration, avec notamment cet accord donc entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Henri Vernet, je vous ai vu tiquer quand je dis le sceau royal, c'est presque une formalité, pas tant que ça?
Alors c'est une formalité en droit, dans le droit britannique, c'est-à-dire qu'en effet, dans le droit constitutionnel, disons, le roi a juste un pouvoir de représentation et il ne peut pas s'opposer politiquement à une loi qui est votée. Néanmoins, ça pose un problème symbolique et un problème moral, parce que ce même Charles III, qui va donc devoir apposer son sceau sur ce texte, il avait qualifié cette idée d'absolument horrible et épouvantable. Elle l'avait profondément choqué il y a 2 ans, parce que elle est rémanente, hein, cette idée-là. Absolument, elle s'est transformée en loi après bien des allers-retours, hein, au sein de la Chambre des communes britannique. Mais ça faisait longtemps que c'était en débat, que ça avait soulevé des tollés. Donc l'indignation du roi lui-même, alors peut-être à l'époque n'était-il pas encore couronné, il s'exprimait de manière davantage libre, parce que...
Non, mais ça va être intéressant, mais bien sûr, effectivement, de regarder
comment
ils se tirent de ces premiers gros dossiers complexes.
Mais oui, et un dossier qui est extrêmement polémique, parce que la société britannique n'avait pas appuyé ça de manière unanime. Loin de là, l'Église anglicane s'était élevée, énormément de recours avaient été émis contre les premières évacuations de ce style qui avaient été envisagées. Il y avait même des charters, hein, qui avaient été commandés, je crois que c'était dès 2022, et qui n'avaient pas pu décoller. Et à l'époque, déjà, le Rwanda avait touché de mémoire l'équivalent de 150 ou 160 millions d'euros pour les accueillir. Mais ce que je veux dire par là, et la réaction du roi, on peut quand même la comprendre, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? Cette idée d'aller envoyer des migrants dans un pays dont ils n'ont pour la plupart peut-être jamais entendu parler, ou alors qu'ils connaissent, parce que des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, bah, par exemple qui viendraient du Soudan, ils savent ce que c'est que le Rwanda, c'est un pays qui n'est pas aussi lointain, et s'ils avaient rêvé du Rwanda, bah, ils seraient peut-être allés directement, ou en tout cas ils auraient tenté d'y aller. Par ailleurs, est-ce qu'on peut...
Mais les Afghans ou les...
Ceux qui sont d'Asie, parce que c'est vrai que beaucoup des migrants qui sont attirés par le Royaume-Uni, c'est en effet parce qu'ils y trouvent des communautés qui sont proches des leurs, donc irakiens, syriens, afghans, qui ont ces habitudes-là, mais eux, pourquoi, enfin, au nom de quoi est-ce qu'on se débarrasse, quand je dis on, c'est un petit peu quand même, enfin voilà, c'est un pays occidental qui évacue ses problèmes. Enfin, ça
on peut s'interroger aussi sur le régime rwandais dont on a
parlé. Oui, le régime rwandais, oui, bien sûr, qui a
de Paul Kagame.
Mais oui, un peu porté au nu en France, alors que franchement, c'est quand même un régime qui est d'une dureté vraiment.
C'est effectivement la qualification politique du Rwanda qui a fait basculer cet accord qui était plus que dans les limbes, encore une fois, il y a 2 ans, du temps de Boris Johnson. La Chambre des Lords, je dis bien la Chambre des Lords, et pas la Chambre des Communes, qui est aujourd'hui travailliste, à majorité travailliste, ils ne sont pas élus, mais tout de même, qui avait considéré, et la Cour constitutionnelle après, qui a fait considérer que ce n'était pas possible de renvoyer au nom du droit, enfin, des réfugiés politiques, parce que le Rwanda, avec Kagame à sa tête, qui est au moins un régime autoritaire, voire pire, n'était pas un État politique. Sûr. Or, vous savez que pour pouvoir éventuellement renvoyer des demandeurs d'asile qui n'ont pas été validés par le pays d'accueil, il faut que ce soit vers un État politiquement sûr. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux accords du Touquet, bien sûr, d'être valides juridiquement parlant, puisque la France, bien sûr, est un pays politiquement sûr. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que cet accord-là avec le Rwanda ne fait pas que externaliser la protection des frontières de l'Union européenne. Je dis l'Union européenne parce que c'est quand même une problématique de l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne n'en fait pas partie.
Le Royaume-Uni fait partie du Conseil de l'Europe.
Du Conseil de l'Europe.
Il est resté dans un certain nombre d'instances.
Voilà, en quoi c'est quand même un pas... Voilà, en quoi c'est un pas qualitatif supplémentaire, c'est parce que il organise méthodiquement l'externalisation du droit d'asile, et ça c'est quand même quelque chose d'assez considérable, qui avait été déjà un peu mise en place, souvenez-vous, en 2016, avec l'accord de l'Union européenne, pour le coup, et la Turquie. Le principe, vous vous souvenez,
les réfugiés... la Turquie pour ça, d'ailleurs, à plusieurs milliards
et
d'euros.
Et on payait, ce qui est le cas aussi avec le Rwanda. Ah oui, Turquie d'Erdogan, qui n'est pas non plus un parangon de démocratie. Mais enfin, à la limite, ça pouvait conceptuellement être acceptable parce que c'était une zone de transit, Turquie, sur le chemin des réfugiés du Moyen-Orient vers la France, l'Allemagne surtout, et peut-être l'Angleterre. Là, les renvoyer au Rwanda, qui n'est pas du tout sur les routes de migration.
Il y a des garde-fous juridiques en Europe pour ça. Et là aussi, il y a un doute, parce qu'on parlait du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, dont le Royaume-Uni est membre, est dépositaire de la Convention européenne des droits de l'homme, en application de laquelle la Cour européenne avait stoppé, en juin 2022, un premier vol vers le Rwanda. Pourquoi cette Cour européenne des droits de l'homme soudain ne serait plus ne serait plus entendue ou entendable, je sais pas si ça se dit, mais le problème reste le même en fait.
Oui, surtout que c'est ça, la Convention européenne des droits de l'homme sont signataires des pays comme la Russie par exemple, qui n'exécute absolument pas, et la Turquie. Donc on n'est pas sur un conseil qui réunit uniquement des grandes démocraties. Et par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme rend des décisions qui en général sont respectées, en tout cas en droit, mais n'a aucune force exécutoire. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas envoyer demain des policiers, des soldats, une force pour le faire appliquer. Tout ça repose sur le droit, sur des règles des droits, sur une hiérarchie des normes, sur le dialogue des juges. Concrètement, le jour où un pays...
Le fait
est que
ça avait stoppé...
Un bras d'honneur, oui, parce que le pays a décidé de le respecter. Ouais. C'est pour ça. Mais la force de police qui est tenue de respecter, c'est le pays qui est tenu d'obéir à un accord auquel il a signé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes membre d'une organisation internationale? Soit vous souscrivez, donc vous êtes tenu d'adhérer non seulement à la Convention, mais donc également à la Cour, et donc à la jurisprudence de la Cour, aux arrêts qu'elle rend si elle vous condamne. Et l'alternative, c'est de se retirer unilatéralement d'une organisation internationale. C'est tout à fait possible, et moi, je constate quand même qu'il y a une sorte de décalage entre la jurisprudence de cette Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'on entend électoralement dans la plupart des démocraties européennes. C'est-à-dire une contestation vis-à-vis de l'immigration, une très forte inquiétude identitaire. Je vous rappelle que le slogan gagnant des Brexiteurs en 2016, c'était « Reprenons le contrôle ». Et que la question de l'immigration, elle était centrale à l'époque. On voit bien que le Royaume-Uni ne s'en sort pas mieux sur la question hors de l'Europe. La preuve, Rishi Sunak doit affronter encore plus d'arrivées d'immigrés, que ce soit légaux ou illégaux, qu'à l'époque où le Royaume-Uni est à l'intérieur de l'Union européenne. Donc le Brexit n'a absolument pas réglé les choses sur cette question. Mais cet enjeu des juridictions contre la volonté des peuples et la démocratie, je pense que c'est c'est une des lignes de front de l'Union européenne et au-delà dans les années qui viennent, parce qu'il y a un conflit de légitimité.
Et ça éclaire un point de l'accord justement entre Londres et Kigali, qui précise justement que les Rwandais, les deux parties d'ailleurs, peuvent s'affranchir des décisions éventuelles de la Cour européenne.
Mais d'autant plus que entre-temps, c'est devenu une loi, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc, quelque part, Rishi Sunak peut aussi s'appuyer sur une légitimité.
Il s'en prévaut, évidemment.
Voilà, se prévaloir de ça, une légitimité plus importante. Par ailleurs, il faut bien comprendre que le droit international, de toute façon, quelles qu'en soient ses sources d'émanation, là, on parle du Conseil de l'Europe, mais c'est vrai que ce Conseil de l'Europe, d'abord, on ne sait pas très bien ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le Conseil européen, avec l'Union européenne. C'est l'Union européenne, c'est
la meilleure chose, c'est que le Royaume-Uni, on est toujours membre.
Mais exactement. Oui, et puis des pays aussi recommandables sur le plan démocratique, en effet, que la Russie qui a été cité, la Turquie et d'autres encore. Et simplement, c'est vrai qu'il n'a pas une force aussi importante, encore que si importante elle est que l'Union européenne. Et lui, par exemple, la France est assez régulièrement condamnée devant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça lui arrive assez fréquemment. Donc, de toute façon, dans un monde aujourd'hui qui respecte de moins en moins les normes internationales, le droit international, vous pensez bien que quand les enjeux, et là on le voit bien, ça a été souligné par Louis Salter, sont aussi importants sur le plan vraiment politique et notamment en campagne électorale, puisque c'est le cas des Britanniques, eh bien, franchement, ce ne serait pas vraiment étonnant qu'ils sortent dessus. En revanche, peut-être que si de nouveau se développe un mouvement d'opinion comme l'avait initié finalement Charles III, enfin avant Charles III, j'imagine, il y a quelque temps, si vraiment ce mouvement renaît, là, ça peut être un autre débat, parce que je pense que une fois que c'est voté, les citoyens, enfin ou les sujets de Sa Majesté britannique se rendent compte quand même de ce que ça signifie que d'évacuer comme ça un problème vers un pays, que ce soit le Rwanda ou un autre, mais en tout cas totalement extra européen, quoi.
Jeannick Halimi, je reviens vers vous juste après le fil en faux. de 20h22. Stéphane Milhomme.
L'Ukraine suspend ses services consulaires pour les hommes en âge de combattre. C'est l'une des mesures pour faire entrer ses ressortissants. Des centaines de milliers d'Ukrainiens vivaient à l'étranger avant la guerre et des dizaines de millions ont fui dès les premiers combats de 2022. Le gouvernement américain va payer 139 millions de dollars aux centaines de gymnastes victimes d'agressions sexuelles. Le criminel, c'est un ancien docteur de l'équipe nationale condamné à la perpétuité. Les victimes accusaient la police fédérale de ne pas avoir pris la mesure des accusations et dès 2015. La présidente du groupe écologiste à l'Assemblée dénonce à son tour la convocation de l'insoumise Mathilde Panot devant la justice pour apologie du terrorisme. Pour Cyrielle Chatelain, aucun parlementaire ne doit être intimidé pour ses prises de position politique. Une enquête est ouverte après le communiqué de LFI publié le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas sur Israël. La marque Habitat va se relancer sur Internet 5 mois après la liquidation judiciaire de ses magasins, la fin de 400 emplois, près de 9000 clients laissés sans solution. Le site ouvrira dans un peu plus d'un mois avec quelques modèles iconiques dans un premier temps.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Louis Osalter est là pour le Figaro, Yannick Halimi, Henri Vernet pour le Parisien aujourd'hui en France. Yannick, vous vouliez réagir, rebondir sur ce qui vient
de dire. Oui, je voulais juste rebondir sur les opinions publiques. Et leur réflexe identitaire. C'est vrai qu'il a été flagrant en Grande-Bretagne avec le Brexit et puis avec les conservateurs renouvelés de façon successive et récurrente depuis plusieurs années à la tête de la Grande-Bretagne comme au gouvernement. Les Anglais aussi peuvent ouvrir les yeux. Ils se rendent compte que, un, le Brexit économiquement, ça fonctionne pas franchement. Deux, ils se rendent compte aussi après plusieurs années qu'encore une fois, que les fameux accords du Touquet, j'y tiens, mais enfin qui étaient quand même faits comme étant une barrière, presque un mur de fer, enfin pratiquement pour empêcher l'immigration vers le pays, n'a pas fonctionné. Et le test, et là on verra surtout si Charles III s'en mêle, si je puis dire, qu'il y a une figure. On verra si cette opinion publique, aussi pro-anglaise soit-elle, et si identitaire que ça. On verra lors des prochaines élections. L'opinion publique anglaise, comme toutes les opinions publiques, ne sont pas totalement sottes. Et bien même sûr, si elles ne veulent pas d'immigrer, elles peuvent se...
L'impact de ce vote, vous l'imaginez de quel ordre? Indépendamment de la suite, effectivement, du sceau royal ou pas.
Je pense que il peut avoir une évolution de cette opinion publique qui effectivement était très entre guillemets identitaire et Grande-Bretagne first peut toujours au nom d'une certaine défense des intérêts anglais se rendre compte peut-être à la faveur de ces différents accords qui depuis des années ne fonctionnent pas en matière de barrières à l'immigration d'essayer de donner sa chance aux travaillistes notamment puisqu'on est en Grande-Bretagne qui peuvent eux développer des politiques migratoires différentes et moins coercitives, voire moins qui portent moins atteinte aux droits de l'homme, si tant est que ça soit le cas. En tout cas, c'est au nom de l'atteinte aux droits humains que ce tollé en Angleterre et sur la scène internationale, on vient de le rappeler, s'est élevé.
Oui, peut-être qu'on peut
arriver à un basculement de la majorité d'ici 18 mois en Grande-Bretagne.
Alors, c'est passionnant, mais je voudrais juste qu'on avance et qu'on évoque... L'immigration est évidemment au cœur de la campagne des Européennes et comme s'il fallait une preuve supplémentaire, une plainte a été déposée aujourd'hui contre Fabrice Leggeri. C'est l'ancien directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes, mais c'est également le numéro 3 de la liste RN. Plainte contre lui, donc pour complicité de crimes contre l'humanité, complicité de torture, donc pour l'époque 2015-2022 où il dirigeait Frontex. Plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme et par Utopia 56, qui est une association humanitaire qui lui reproche d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants. Qu'est-ce que ça vous inspire de façon générale, cette plainte ? Aujourd'hui, et on verra que évidemment, ça a fait beaucoup réagir au RN, oui, au Salter.
Alors déjà, ça m'inspire un débat sur le rôle de Frontex. Bon, c'est une plainte, hein, c'est pas une enquête. Il n'y a pas une institution qui s'est saisie judiciairement pour expliquer qu'elle enquêtait sur des tortures ou des crimes contre l'humanité. C'est de la politique, c'est de la communication. Des ONG sont dans le rôle en déposant ce genre de plainte et en faisant parler d'elle. Bon, très bien, on verra quelles sont les suites. Elle s'appuie en fait sur quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est ce qu'on reproche à Frontex, mais dans les deux sens. et qui pose en fait la question du rôle de cette agence européenne dont le budget a énormément augmenté depuis 2015, puisque c'était la première crise migratoire avec énormément d'arrivées en provenance du Moyen-Orient notamment. Et à ce moment-là, s'est posé la question de savoir ce qu'était exactement que cette agence dont on ne parlait pas beaucoup avant, qui était faiblement dotée, qui était assez faible en effectif. Et Fabrice Leggeri, qui est donc ce monsieur est le numéro 3 de la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes. Il a une carrière au ministère de l'Intérieur. C'est un énarque qui ensuite a occupé divers postes au ministère de l'Intérieur, qui ensuite a occupé des postes dans l'Union européenne, jusqu'à se retrouver directeur de cette agence. Mais à un moment, encore une fois, où c'était pas un poste très stratégique au sein de l'Union européenne. On parlait pas de Frontex régulièrement comme on en parle maintenant. Et lui était à la tête de cette agence pendant la période où, eh bien voilà, les effectifs ont grandi, le budget a augmenté, et surtout le débat a monté sur à quoi sert cette agence. Est-ce que ce sont des garde-côtes qui sont chargés d'empêcher les entrées de migrants dans l'Union européenne? Est-ce qu'ils sont chargés de faciliter quelque part leur arrivée pour ensuite voir ce qu'on en fait, qui traite leur situation? Et là, on revient sur les débats entre pays européens, entre les pays d'accueil, entre les pays de transit, entre les pays qui sont moins concernés, mais qui sont tenus à la solidarité. En fait, ce qui est reproché à Leggeri, ça concentre toutes les contradictions internes de l'Union européenne sur organiser l'immigration et l'intégration. Et le débat, ça a duré 5 ans, hein, c'était laborieux les débats sur ce fameux texte asile-immigration qui a été adopté il y a quelques jours au Parlement européen, ils ont été interminables. Parce que effectivement, l'Italie, pays d'accueil, n'a pas du tout les mêmes intérêts que la Suède ou le Danemark. Parce que Viktor Orban ne voulait pas participer au mécanisme de solidarité. Et parce que Frontex, est-ce que c'est une agence qui doit dire aux migrants « Stop, on vous arrête là, vous rentrez », donc comme on le reproche à Fabrice Leggeri, ou est-ce qu'elle doit organiser, canaliser, quel est exactement le rôle de cette agence? Elle est prise en fait en étau politique entre les différents commissaires européens, entre les avis des différents États membres et entre les différents groupes au Parlement européen. Et on n'est pas sorti de ce débat encore.
Rapidement, avant le point sur l'info, quel peut être l'impact de cette plainte et au-delà de la plainte, du fait de remettre dans le débat toutes ces questions sur Frontex qu'exposait Louis Osalter? Est-ce que ça peut être l'URN?
De toute façon, dès que vous agitez le mot immigration, clairement, oui, ça profite au RN. C'est ça qui le fait monter. Et en plus, comment dire, il y a toujours cette posture de victimisation. Donc là, il sera facile pour le RN, tantôt on le voit déjà venir.
Même avec complicité de crime, avec des intitulés.
Oui, mais oui, parce que est-ce que c'est un crime aux yeux de beaucoup de certains électeurs, enfin en tout cas de ceux qui sont vraiment le plus opposés à l'immigration? Est-ce que c'est vraiment un crime d'empêcher des migrants de venir en Europe? Mais ça, enfin, je rejoins totalement ce que vient de dire Louis, c'est-à-dire c'est vraiment la question sur laquelle le manque de solidarité, le manque de partage de responsabilité entre Européens est vraiment criant. Mais on le voit à tous les étages. Là, par exemple, voilà la Grande-Bretagne qui n'est plus dans l'Union européenne, bien évidemment, mais qui se défausse sur le Rwanda, l'Allemagne à un moment qui s'est défaussée sur la Turquie parce qu'on a payé la Turquie, et puis tout cela qui vient à coup d'images dramatiques, mais qui rappelons-nous, hein, le petit Aylan, cet enfant de 5 ans qui avait été échoué sur une plage, c'était déjà en 2015, on a dit allez ça y est, vraiment on va prendre les choses en bras le corps, on va les régler, on va trouver un accord. C'est vrai que cet accord, il a mis du temps à être bâti, mais maintenant sera-t-il réellement appliqué sans que en effet les Italiens ne soient plus isolés comme ils le sont, parce que bien sûr qu'il y a une dureté dans les discours, en tout cas italiens, par rapport aux migrants. Néanmoins, c'est quand même eux qui sont vraiment le premier pays d'accueil. Et
oui, ce mécanisme de solidarité.
Mais oui, et ça leur manque énormément. Donc tout est fait pour attiser les radicalisations.
Allez, on s'interrompt et on va poursuivre notre émission et notre débat.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est en compagnie de Jeannick Halimi, éditorialiste politique, Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, Henri Werner, rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France, apologie du terrorisme. Après Rima Hassan, qui est sur la liste de LFI pour les Européennes, voilà donc que Mathilde Panot, elle aussi, est convoquée par la police dans cette enquête qui concerne en fait le communiqué publié par les députés insoumis après les attaques du Hamas du 7 octobre. C'est une audition libre, précisons-le. Alors, LFI, je ne sais pas les uns les autres quelles informations vous avez, ce que les informations de France Info ont pu recouper, c'est que LFI ne condamne pas fermement l'arrêt du Hamas dans ce texte, mais parle d'une offensive armée qui intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Et les Insoumis déploraient les morts israéliens et palestiniens et appelaient à un cessez-le-feu immédiat. Le texte a été signalé 300 fois auprès du pôle national de lutte contre la haine en ligne, d'où l'ouverture de cette enquête. Et c'est pour ça qu'elle va devoir se justifier auprès des enquêteurs. Henri Vernet, qu'est-ce que cette plainte vous inspire ?
Alors, franchement, c'est mitigé. Parce que, bon, clairement, d'un côté, il y a une stratégie presque du chaos, pourrait-on dire, de la provocation permanente de la part de LFI et singulièrement de Jean-Luc Mélenchon sur ce thème, sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on s'en souvient, en effet, les mots que vous avez cités, les premiers mots des communiqués de LFI étaient vraiment choquants, outranciers. C'est vrai que parler de résistance, avoir autant de mal qu'ils en ont eu, on l'a assez répété à qualifier le Hamas de terroriste, tout cela a vraiment choqué à juste titre. Il faut d'ailleurs remarquer que le communiqué en question, il avait été émis très vite et il avait été, pris avec des pincettes, pas condamné, mais en tout cas un peu désavoué par certains responsables élus LFI eux-mêmes qui avaient trouvé qu'en effet, peut-être que ces paroles-là étaient excessives. Bref, ça avait créé des remous en interne dans la mesure où il pouvait y en avoir au sein de LFI, ce qui reste quand même très marginal. Mais bon, il y avait ça. C'est vrai que depuis,
on a eu les épisodes, au fil des semaines,
tout un tas, puis donc tout un tas
des désaccords au sein de LFI, on a eu de plus en plus au fil des semaines.
Exactement, ensuite, exactement. Et mais néanmoins, cette expression vraiment outrancière, et puis cette volonté de mettre le cas de Gaza au cœur du débat.
Apologie du terrorisme.
Voilà. Mais maintenant, la judiciarisation maintenant de la vie parlementaire, de la vie publique, ça, là pour le coup, quand je dis mitigé, moi je trouve ça quand même franchement un peu gênant, quoi.
Yannick Halimi.
Écoutez, moi, je pense que la justice tranchera. Est-ce que le fait de ne pas qualifier de terroriste, comme l'ont fait toutes les forces
politiques... Pour l'instant, c'est la police, hein, c'est pas encore la justice.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas la police qui va trancher. Donc, s'il y a suite à cette plainte, la justice va devoir se prononcer.
Absolument.
C'est en ce sens que je veux dire, la justice tranchera. Est-ce que le fait de ne pas qualifier explicitement de terroriste, pardonnez-moi, les massacres du Hamas est une apologie du terrorisme, encore une fois, c'est à la justice à trancher. Je pense que juridiquement, je pense que c'est ça que vous disiez, Henri Vernet, je pense qu'il y a peu de risques pour Mathilde Panot, je pense, hein, encore une fois, d'un point de vue juridique, de se faire condamner pour apologie du terrorisme parce que elle n'a pas parlé et qualifié de terroriste le Hamas le 7 octobre, premièrement. En revanche, je pense que l'opinion publique et la scène politique, eux, ont tranché. Parce que l'opinion publique a déjà considéré Jean-Luc Mélenchon et une grande partie de la France insoumise, je me fonde sur un sondage, une étude même qui est parue il y a quelques semaines dans Le Monde, qui a été faite par Ipsos de mémoire, qui considère, ce sondage explicitement indique que 2/3 des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon et une grande partie de LFI est antisémite ou en tout cas s'en fait les pompiers incendiaire. Donc le cas de Jean-Luc Mélenchon au regard, attention, de l'opinion publique est tranché. Et pour terminer, effectivement là je suis plutôt d'accord avec vous, politiquement parlant et notamment au sein de la gauche, on sait que c'est les positions catégoriques de Jean-Luc Mélenchon. N'oublions pas que sur la liste européenne menée par Manon Aubry, LFI en 7e position, il y a Rima Hassan qui est une des cofondatrices
également
de la Action Palestine France, qui a comme sur son fronton From the River to the Sea, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, qui est donc la négation implicite de l'État d'Israël. N'oublions pas que ces positions-là a provoqué un clivage, voire une fracture véritable au sein de la gauche, entre d'un côté le Parti communiste, les écologistes, et même, vous le disiez, mais de façon à mon avis beaucoup plus intense que ce que Henri le disait, il y a plus que des états d'âme au sein de LFI à la suite de cette prise de position.
Mais pour
plus
le coup, il y a plutôt du soutien globalement. Est-ce que c'est pas typiquement le genre d'initiative qui peut resserrer les rangs à la fois au sein de LFI, mais même, je voyais le socialiste Philippe Brun qui dit au-delà des désaccords politique sur les termes employés après le 7 octobre. C'est fou de considérer qu'on puisse parler d'apologie du terrorisme.
Oui, quelque part, c'est un service à LFI qui va pouvoir se victimiser. C'est tout à fait normal en comportement politique. Et puis, ça leur permet, à un moment où ils sont très, très isolés, d'aller trouver de manière magique des soutiens ailleurs. C'est-à-dire qu'au nom des libertés publiques, effectivement, il y a d'autres camps politiques qui leur apportent un soutien. Mais pourquoi ? Parce qu'ils réagissent aussi en tant qu'hommes politiques, les femmes politiques, ils se disent, mais si moi, demain, je tiens un propos qu'un juge interpréterait de manière un petit peu zélée et qui tomberait sous le coup de la loi, qu'est-ce qu'on peut encore prendre comme position politique ? Moi, précisément, je pense que ce n'est pas la justice de trancher, c'est effectivement à l'opinion publique. Ce n'est pas la justice d'aller se mêler des termes employés par un communiqué d'une force politique. Et je rappelle que Mathilde Panot...
Surtout si ça tombe sous le coup de la loi.
Alors, figurez-vous que Mathilde Panot, quand elle tient des propos dans l'hémicycle, elle bénéficie d'une immunité. Les parlementaires sont protégés par une immunité pour les propos qu'ils tiennent. Alors, il se trouve que c'était un communiqué, donc ce ne sont pas des propos tenus techniquement parlant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais je trouve ça toujours un peu gênant, en fait, quand on en vient en fait à s'en remettre à la justice pour trancher l'emploi des termes. Et là, en plus, on est presque à trancher le non-emploi du terme. Parce que qu'est-ce qui a été reproché immédiatement ? Et à raison, hein, d'ailleurs, je le partage ouais. à LFI au moment de leur communiqué du 7 octobre, c'était de ne pas condamner. Mm-hmm. Donc, en fait, c'était ça qui était reproché. C'est-à-dire que l'apologie du terrorisme se ferait en creux, parce que non seulement ils parlent du Hamas comme des forces armées palestiniennes, donc une manière de les faire passer pour une armée régulière, ce que le Hamas n'est pas du tout. C'est un mouvement terroriste considéré comme tel par énormément de pays et d'organisations internationales. Mais ce qui leur a été reproché en premier, c'était de ne pas condamner. Et en cela,
le mot de résistance n'est d'ailleurs même pas dans le communiqué en question.
Mais est-ce que la justice doit se prononcer sur ce que les politiques disent et sur ce qu'ils ne disent pas désormais ?
Clair, ouais.
Moi, je trouve que ça pose une question cruciale pour
la
démocratie.
Juste pour conclure, Henri Vernet, vous voulez
oui, non, oui, parce que c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions. Aussi détestables soient bien des propos de Jean-Luc Mélenchon et de pas mal de bien membres sûr. De LFI, aussi détestables soient-ils, la démocratie, c'est quand même la liberté d'expression. Et là, avec la kyrielle d'annulation, d'interdiction, de conférences, de forums qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, avec aujourd'hui cet épisode, donc on verra bien ça débouche en justice ou pas, mais en tout cas de judiciarisation du débat, alors qu'il s'agit vraiment de propos en effet de parlementaires, même si on est choqué, à juste titre ou pas, par ce qui est dit, il y a quand même un malaise dans la liberté d'expression dans notre pays. Et il y a comme ça une espèce de dérive, comme si on n'avait pas confiance en nous-mêmes d'être une démocratie suffisamment mûre pour entendre des choses qu'on certes, on peut détester, mais certains les soutiennent et en tout cas qui doivent faire débat.
Non, moi, je suis tout à fait. Quand j'ai dit la justice tranchera, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que évidemment la liberté d'expression s'impose et tout ce qui est meeting ou conférence annulée, sauf au nom de la sécurité qui serait véritablement attaquée et mise en cause, évidemment, elle n'est pas du tout souhaitable. Juste pour terminer, je ne suis pas sûre qu'au-delà de ce moment passé, ce qui est le fond de la radicalisation, tous azimuts, hein, pas seulement sur le conflit israélo-palestinien, la radicalisation du discours et des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses membres, je ne suis pas sûre que ça favorise, un, l'unité de la gauche et, deux, une vague de fond en sa faveur de la part de l'opinion publique. C'est plutôt une rétractation sur un socle assez étroit de la part de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches, une contraction d'un socle dont veut profiter éventuellement, dont pourrait profiter, mais on voit qu'il sort du bois de plus en plus, un François Ruffin au sein même des troupes LFI, enfin insoumis au sens large du terme.
Et ça fera l'objet d'un autre débat, puisqu'il est 20h42, on parle de protection des données personnelles dans un instant. Après le fil info de 20h42, Stéphane Milhomme.
À Béziers, 1400 à 3000 manifestants ont défilé contre les idées d'extrême droite dans la ville de Robert Ménard. L'élu ancien proche de Marine Le Pen met en place un couvre-feu pour les mineurs. Pour la CGT, Sophie Binet se dit inquiète que le gouvernement applique d'une certaine manière les idées d'extrême droite et en particulier dans l'éducation. Les États-Unis veulent de vrais progrès avant de recommencer à financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette mise au point de la Maison-Blanche intervient au lendemain de la publication d'un rapport expert mandaté par l'ONU. Il conclut que cette agence manquait de neutralité dans la bande de Gaza, mais pas de preuves que certains membres soient proches du Hamas. C'est un record dans l'Hexagone. Entre janvier et avril, près de 1700 cas importés de dengue ont été comptabilisés. C'est 12 fois plus que l'an dernier sur la même période. Cette situation inédite est due à la flambée de cette maladie due au moustique tigre dans les Caraïbes et l'Amérique. Avant les Jeux Olympiques, la France appelle les voyageurs à la vigilance. Pas moins de 10 matchs pour la 24e journée de Ligue 2 de football et tous dès 20h45. Le leader Auxerre affrontera Laval, Angers joue à Guingamp, Grenoble face à Saint-Étienne et Rodez accueille le Paris FC, entre autres.
France Info.
20h-21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Louis Osalter du Figaro, Yannick Halimi et je salue Nicolas Arpagian qui nous a rejoint. Bonsoir à vous. Vous êtes notre expert sur cette grande partie intelligence artificielle, numérique, données personnelles. Vous êtes vice-président du cabinet Headmind Partners et auteur d'un livre qui est paru l'année dernière, je crois, chez Mareuil Édition, Innocence à crédit. Alors c'est intéressant de vous avoir pour décrypter ce rapport de la CNIL qui arrive le jour où le gouvernement annonce qu'il distille comme ça de l'intelligence artificielle pour simplifier la paperasse administrative, et aussi le jour où TikTok Lit est prié de rendre des comptes à la Commission européenne. Ça fait beaucoup de sujets. D'abord la CNIL. Les plaintes explosent, dit le gendarme français de la vie privée en matière de numérique. Forte hausse également des violations de données signalées. Et c'est plutôt rassurant, écoutez, selon Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL.
Les plaintes que nous avons reçues ont augmenté de 35%, avec plus de 16 000 plaintes. C'est deux fois plus de plaintes que reçoit la CNIL qu'il y a 5 ans. C'est dire à quel point les individus sont de plus en plus sensibles aux enjeux de protection des données. C'est aussi un triplement des demandes qui nous ont été faites d'accéder avoir des informations pour savoir si les gens sont inscrits dans des fichiers auxquels ils n'ont pas accès directement, par exemple les fichiers bancaires ou les fichiers de renseignement, parce qu'on a reçu plus de 20 000 demandes sur le sujet. Donc je pense que les personnes sont très sensibilisées maintenant à ces enjeux en matière de protection de la vie privée.
Nicolas Arpagian, bonne nouvelle que les Français prennent conscience.
Bonne nouvelle, absolument, parce que ça prouve d'une part qu'ils sont conscients qu'ils ont des droits, deuxièmement qu'ils sont conscients qu'il y a une autorité, la CNIL, et c'est aussi intéressant de voir une autorité administrative indépendante, née en 78 certes, mais qui a su s'adapter à l'environnement technologique et juridique. Donc au moment où on parle d'intelligence artificielle, d'une autorité de contrôle, c'est vrai qu'on voit que la CNIL serait intéressante comme autorité légitime. Elle comprend les données, les Français la connaissent, et précisément elle a déjà, par les amendes qu'elle a délivrées, enfin en tout cas qu'elle a prononcées, une certaine autorité vis-à-vis des grands acteurs du numérique.
Ils prennent conscience des enjeux, les gens qui nous écoutent et nous-mêmes, mais ils sont un peu perdus quand même. C'est ce qu'elle explique, quoi. Ils veulent savoir si leurs données sont conservées. Enfin, personne ne.
Alors en fait, ils sont perdus pourquoi ? Pas parce qu'ils ignorent leurs droits, mais peut-être parce que les gestionnaires, les exploitants de données ne sont pas très clairs quant à l'usage qu'ils en font.
Oui,
à la finalité.
Et en même temps, on va être honnête, tous ici autour de la table, quand on nous propose de cliquer, voulez-vous autoriser, voulez-vous pas autoriser, voulez-vous lire
les conditions générales d'utilisation,
honnêtement, qui ici lit
les cookies?
Voilà. Yannick Halimi.
It's a joke.
Alors,
it's a fake news.
Alors, ce qui est vrai, c'est que, oui, certes, mais le droit fait partie, pour avoir des prérogatives, il faut qu'un droit existe et il faut en être informé, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, précisément, c'est d'avoir cette information. Donc, la mise à disposition sur un langage, avec un langage qui est plutôt concret. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que ces données ont été utilisées ? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Donnée personnelle, rappelons-le, c'est ce qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Nom, prénom, évidemment, date de naissance, également votre photo. Et donc, on s'aperçoit que dans notre vie numérique, on en sème un peu partout, on nous sollicite beaucoup, et que dès lors que des gens sont conscients qu'ils ont des droits, il est plutôt heureux qu'ils souhaitent l'application de ceci.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, en plus, survient à un moment où le gouvernement, je le disais, a décidé de mettre de l'intelligence artificielle un peu partout. Je dis ça de façon un peu vulgaire, volontairement, parce que c'est ça qu'il faut, qu'il faut retenir. Sauf qu'on n'a pas forcément le sentiment que l'ensemble du gouvernement perçoit complètement tous les enjeux. On se trompe.
Alors, en fait, le problème, c'est ce terme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on voit bien la modernité de l'appellation, donc qui est plutôt attractive. La seule chose, c'est qu'on va très vite poser des questions, de quoi s'agit-il ? Il va s'agir vraisemblablement plutôt de ce qu'on appelle un LLM. LLM, Large Language Model, c'est-à-dire un système un peu comme une interface à qui on va poser des questions et qui va puiser dans le capital des données d'une administration pour y répondre. Comment est-ce qu'on fait pour faire un permis? Quels sont les éléments requis pour un permis de construire? Quels sont les droits pour le Xème enfant à charge? Est-ce que je peux déclarer mon enfant étudiant? Et ça, en fait, pour désengorger des services administratifs, mais là, on va parler d'une catégorie d'intelligence artificielle, ces fameux LLM, qui sont capables, s'ils sont bien conçus, s'ils sont bien entraînés, d'une part, d'apprendre le vocabulaire humain, c'est-à-dire quelqu'un, un vocabulaire qu'un humain comprendrait, et ensuite il va falloir, un peu comme un enfant, à qui on va apprendre à parler, à s'exprimer, donc il aura un usage du quotidien. Après, au fur et à mesure qu'il fait des études, on le spécialise. Et ben là, il va falloir le spécialiser avec le langage de l'administration, les termes techniques, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas une IA globale, mais qu'il y aura bien des IA spécialisées.
Une pour le fiscal. On leur a même donné des petits noms, Albert...
Par exemple, alors bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'effectivement, mais l'idée des IA spécialisées, une pour le fiscal, une pour les prestations sociales, mais voilà, de manière à ce qu'il ait une spécialisation de vocabulaire.
Louis Asselter...
En fait, les politiques, comme souvent, quand ils connaissent pas une nouveauté, l'utilisent le mot, le place pour montrer qu'ils sont conscients de l'apparition, mais l'utilisent un petit peu comme un gadget, sans voir effectivement, parce que il n'y a pas eu le travail de prospective pour les applications concrètes qui en sont. Alors qu'effectivement, c'est assez immense le fait que bientôt sera peut-être plus des agents du fisc, mais une IA qui ira aller déceler les indices de fraude fiscale, qui a
dans
qui
la lutte contre la fraude, c'est déjà le cas. Hein.
Voilà, non, mais bien sûr. Notamment sur les réseaux sociaux.
Mais ça va être industrialisé, quoi.
Voilà, sur le cadastre. Exactement. En fait, notamment sur les cadastres.
Les piscines.
Les réseaux sociaux. Voir si, d'ailleurs, maintenant, il y a une autorisation légale de manière à voir si votre train de vie affiché sur les réseaux sociaux est en cohérence avec vos déclarations. Et donc, effectivement, par exemple, des voyages très exotiques ou des présentations de véhicules, etc. Et donc, l'idée, c'est de comparer les images avec des déclarations. C'est de l'IA, ce ne sont pas des...
Et encore une fois, l'idée, c'est de confier ça à la machine plutôt que de mobiliser des cerveaux.
Voilà, alors par contre, il faudra vraisemblablement un arbitrage de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'en moment, on a vu des toiles, des bâches bleues qui avaient été qualifiées de piscine, et parce qu'effectivement, une grande surface bleue rectangulaire peut, pour une IA, avoir une tête de piscine. Voilà, et donc, il faut quand même cet arbitrage et l'analyse de l'humain, et donc la combinaison des deux.
Allez, 20h50, fil info, Stéphane Milhomme, et on poursuit.
À l'aéroport d'Ajaccio, il y a des défaillances graves au niveau du filtrage des bagages. C'est le préfet de Corse qui le déplore. Elles ont été constatées fin 2022 et après 3 missions d'audit. Cette annonce apparaît comme un rappel à l'ordre à l'approche de la saison touristique et dans le contexte d'un plan Vigipirate au niveau maximal, urgence, attentat. Une semaine maintenant après le début de l'opération Place Nette à Mayotte, le ministère des Outre-mer dresse un premier bilan. 250 bangas, ces abris de fortune, ont été détruits sur un objectif de 1300. Ils sont généralement occupés par des migrants, situation irrégulière. 550 personnes ont d'ailleurs été interpellées, certaines expulsées, d'autres seront relogées. Le tollé international après l'adoption de la loi britannique visant à expulser des migrants au Rwanda. Le Premier ministre Rishi Sunak qualifie ce vote d'historique. L'ONU demande à Londres de reconsidérer ce plan et dénonce des lois de plus en plus restrictives face aux réfugiés au Royaume-Uni. Et puis pendant un an, Strasbourg est capitale mondiale du livre. La ville de l'Alsace est la première cité de France à être distinguée. Elle propose plus d'un millier d'événements pour promouvoir l'accès à la lecture et sous toutes ses formes. C'est un label accordé par l'UNESCO.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Henri Bernet est là pour Le Parisien aujourd'hui en France. Louis Asselter pour Le Figaro. Yannick Halimi et nous sommes avec notre expert Nicolas Harpagian, vice-président du cabinet Edmind et Partners. Yannick Halimi, vous voulez
réagir. Deux choses. C'est normal, vous avez commencé par la CNIL qui est dans l'actualité. Donc on a là déjà une logique de contrôle ou d'abus de pouvoir de la part des pouvoirs publics ou autres. C'est légitime. Mais deux choses tout de même. Le Albert là, le fameux l'intelligence artificielle là que va lancer Monsieur Guérini à la fonction publique. Il a quand même pour but d'apporter des réponses circonstanciées, adaptées, quasiment personnalisées aux usagers. Donc c'est quand même quelque chose. C'est plutôt un pas en avant. Faut pas diaboliser l'intelligence artificielle. Je pense
personne diabolise là.
On a quand même. Non, je dis pas que vous diabolisez. on a, et c'est normal, on a tous quand même des visions un petit peu négatives des dangers que peut représenter l'intelligence artificielle, me semble-t-il. Vous avez commencé par la CNIL, encore une fois, c'est quand même...
Disant que c'était une bonne nouvelle, justement, voilà. que tout le monde a conscience des
enjeux. Une bonne nouvelle que les faits, qu'il y ait des plaintes.
Bah, que les gens comprennent que
les dans le rapport de la CNIL, il ne s'agit pas de plaintes contre l'intelligence artificielle, c'est toutes les atteintes à la protection des données et déclaration des usages des données personnelles dans l'ensemble, dans la vie numérique.
Je comprends bien.
C'est juste la concordance des circonstances.
Je comprends bien, n'empêche... Ok, la coloration qu'on en a, et c'est vrai, quand il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, c'est d'en avoir peur et d'en voir les effets négatifs, et c'est bien normal, premièrement. Deuxièmement, votre question, je crois, c'était dans... Est-ce que c'est Big Brother, tout de même, qui revient? C'était une des questions que vous posiez, non? C'était pas
Non, sincèrement pas. C'est comment on sécurise, je pense que c'est... En gros, comment
qui dit sécuriser, dit atteinte potentielle à la sécurité, d'accord?
Non, sécuriser les données personnelles que nous délivrons, nous laissons des traces tous sur Internet, en faisant des courses, en faisant ce que vous voulez. Et donc, comment tout ça est
sécurisé par rapport à des utilisateurs qui pourraient en faire une mauvaise utilisation. C'est quand même bien ça, quand on parle de sécuriser, c'est qu'il y a un danger.
Certes,
on est bien d'accord. Voilà. Et je voulais juste dire que ce danger potentiel qui peut venir effectivement de la puissance publique, parce qu'on a tous en tête les atteintes de certains États, notamment sur certains de nos sites Internet ou des atteintes de puissance publique, quelle qu'elle soit. Je vous pose la question, est-ce que le problème, la menace et cette nécessité de sécuriser nos données ne vient pas plutôt de groupes privés, de private big brother? Je pense aux GAFA, je pense par exemple à Meta, qui vient quand même en début d'année, me semble-t-il, en échange de la protection des données, eux ils disent qu'en échange de ne pas avoir de la publicité, mais comme vous le disiez Bérangère, qui dit publicité dit acceptation des cookies, dit donc circulation dans une toile plus ou moins obscure de nos données personnelles, donc Meta vient de... Mais est-ce que le gros problème, c'est outre les atteintes possibles aux libertés publiques ou à la sécurité, à la confidentialité des données privées par des organismes ou par des États, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette évolution des techniques, est-ce que ce n'est pas plutôt des grands groupes comme Meta, Facebook, etc., etc., qui sont les véritables menaces à la protection de ces données?
Nicolas.
Alors, vaste question.
Qui est fondée ou pas?
Alors, je vais essayer de la synthétiser, qui est de dire, en fait, il faut savoir contre qui on se protège. Vous avez en fait des attaques étatiques qui visent par exemple la tenue d'un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire la disponibilité des équipements, des infrastructures, des systèmes peut être fragilisée par des intrusions criminelles ou émanant d'États. Donc ça, à ce moment-là, on a une coalition des grands acteurs fournisseurs de services qui sont les grandes entreprises qui ont en charge la sécurité de l'événement. On a l'intervention de l'État, on a une agence nationale de sécurité des systèmes d'information placée sous l'autorité du Premier ministre. Donc l'idée, c'est de lutter contre les attaques criminels de haute intensité ou les attaques d'origine étatique. Ensuite, nous avons, le continuum avec le rapport de la CNIL, ce sont des mauvaises manières, ce sont des pratiques, en tout cas, peuvent être assez limites de certaines entreprises qui vivent de l'exploitation. Si on fait l'analogie pétrolière, du raffinage d'une matière brute qui sont ces données pour en faire de la création de valeur à leur profit, certes, mais qui effectivement peuvent empiéter le fameux droit sur la vie privée, le droit sur l'usage posé par l'Union européenne avec un règlement général sur la protection des données qui date de 2018 et qui fixe des droits aux citoyens que nous sommes concernant l'usage et le maniement des données personnelles. Donc, en fait, selon les circonstances, il va falloir s'appuyer sur l'État pour être protégé par rapport à des attaques criminelles et quelquefois, il va falloir interroger ces grands acteurs que vous mentionnez quant à leur maniement des données et les abus, parce que précisément, ils les compilent, ils les croisent, ils les vendent. Quelquefois même, ils essayent de faire de la projection, c'est-à-dire de prendre votre comportement passé pour imaginer ce que seraient soit vos opinions, soit vos comportements futurs. Donc là, à ce moment-là, et c'est là où, par contre, je me permets de saluer le travail de la CNIL, c'est-à-dire qu'effectivement, elle joue son rôle d'arbitre, de sanction, elle met des sanctions en pourcentage de chiffre d'affaires mondial de ces grands acteurs, et donc c'est important. La seule chose, c'est que là, vous avez raison, c'est qu'il va falloir que ces acteurs de contrôle aient encore l'expertise, et donc qu'elles puissent recruter et qu'elles aient les moyens. C'est pour ça qu'on a vu une augmentation de 35% des plaintes de la CNIL, son budget n'a pas augmenté de 35%, ses effectifs n'ont pas augmenté de 35%, ça pose la question que l'on des moyens humains et financiers qu'on accorde à ces acteurs qui restent quand même des remparts importants pour protéger les citoyens que nous sommes.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian. La tradition, c'est qu'on jette un œil aux unes du lendemain. Le Figaro, Louis Alcelter, demain.
Surenchère risquée de Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé dans cette émission.
On en a parlé absolument. La une du Parisien, Henri Vernet.
Eh bien, c'est un débat. Est-ce qu'il faut un couvre-feu pour les mineurs suite à diverses initiatives qui ont été prises ces dernières semaines ?
Dans différentes villes, notamment. Je rappelle le titre de votre livre, Nicolas Arpagian, Innocence à crédit, c'est chez Mareuil Édition. Merci aussi à Yannick Halimi. Demain, les informés, c'est à 9h. Sadia Braclia et Renaud Délier. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.